À vous, les Burgiens. Votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous. Retour sur deux événements à la MJC de Bourg-en-Bresse dans le cadre du Festival des Solidarités. Projection d'un documentaire sur le parcours de trois mineurs étrangers et une conférence gesticulée sur la filière textile. Le Festival des Solidarités, organisé chaque année partout en France, célèbre une solidarité ouverte au monde. Concrètement, il crée des passerelles entre le local et l'international. Le collectif Bresse-Revermont a proposé plusieurs rencontres à Bourg et Malafrota.
Je m'appelle Yacouba. Moi, je viens d'un petit village de Guinée-Conakry. Quand je suis arrivé à la gare de Perrache à Lyon, j'étais seul. Quand ils ont vu que j'étais mineur, ils m'ont envoyé à l'aide sociale à l'enfance. C'est là que les problèmes avec l'administration ont commencé.
Au moment où le jeune est fini d'étudier, il a son diplôme. Et là, tout bascule, quoi, tu vois. C'est une manière de torturer encore les jeunes. Il faut qu'on se donne les mains, on sait, on fait un bloc. Lorsque quelqu'un il a un jugement au tribunal, tout le monde se mobilise à aller le soutenir. Parce que si on ne le fait pas, c'est nous qui vont crever, c'est sûr.
Mais c'est à nous de démarrer, déclencher la machine. Après, on verra les gens s'ils nous aident ou pas. Mais on n'attend pas les autres qui font des choses à nos places.
En Europe, les maisons sont belles, les rues sont bien faites. Mais c'est comme quand on met l'aluminium au feu, ça brille. Mais si tu mets ta main dedans, tu vas pleurer.
Antoine Dubeau, votre film Exil adolescent raconte le parcours de trois jeunes qui ont quitté l'Afrique pour la France. Fanny vient du Cameroun, Bantini du Mali et Yacouba de Guinée. Après des milliers de kilomètres, ils se sont retrouvés à Lyon. C'est là où vous vivez. Comment les avez-vous rencontrés ?
C'est des jeunes qui se sont réunis en collectif et ce collectif se réunit à deux rues de là où j'habite, de chez moi. Et moi, j'ai toujours fait des films avec des personnes qui habitent dans mon quartier. Et quand j'ai découvert ce collectif à côté de chez moi, j'ai eu envie de les rencontrer. Et la première fois où je suis allé à une réunion de ce collectif, ils m'ont vraiment impressionné. Il faut savoir que c'est des réunions qui durent parfois 3, 4, 5 heures, dans laquelle chaque jeune s'exprime sur ce qui s'est passé pour lui, ce qui lui arrive. Donc des fois, il y a des moments assez lourds, assez durs. C'est aussi des jeunes qui ont beaucoup d'humour, beaucoup de lucidité sur ce qui se passe. Et donc après ces 3-4 heures de réunion où je les ai tous entendus débattre, discuter, s'entraider, etc., je me suis dit vraiment, j'ai envie de les filmer, de filmer cette solidarité, ce collectif.
Donc plusieurs jeunes rejoignent ce collectif de mineurs étrangers à Lyon. Antoine Dubeau, pourquoi vous avez choisi de suivre Fanny, Bantini et Yacouba ?
Je les ai choisis autant qu'ils m'ont choisi. Enfin, ça paraît un peu facile de dire ça, mais je crois vraiment que dans la relation entre la personne qui filme et celui qui est filmé, il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'il faut savoir déjà que pour ces jeunes, c'est très compliqué d'accepter d'être filmé. C'est toujours compliqué, mais je le compare souvent à la même question qu'aller manifester pour eux. Aller manifester, ça veut dire s'exposer, ça veut dire se montrer. Et du coup, c'est une grande question au sein de ce collectif de se demander, mais si on s'expose, est-ce qu'on ne se met pas en danger ? Finalement, la question du film, c'était un petit peu la même problématique. Est-ce que apparaître dans le film, c'était pas se mettre en danger ? Donc, déjà, il y a beaucoup de jeunes, même si j'avais noué des relations assez fortes avec eux, avec qui je ne pouvais pas faire le film parce qu'ils n'avaient pas envie et je ne les ai jamais poussés, forcés à participer au projet. Donc voilà, déjà, il a fallu que le film ne pouvait se faire qu'avec des jeunes qui étaient vraiment motivés et surtout qui pouvaient accepter d'être filmés sans cette crainte que ça les mette en danger. Et après, bah, c'est des rencontres. C'est en effet, Yacouba, Fanny, Bantine, c'est des jeunes qui, pour des raisons très différentes, ont tous les trois touché énormément par ce qu'ils avaient à proposer, par la manière dont ils racontaient les choses, par le regard qu'ils portaient sur la société. Et du coup, c'est avec eux trois qu'on a commencé à tisser le film petit à petit.
Comment vous pourriez les présenter en quelques mots?
Ils sont tous les trois très différents. Yacouba, c'est quelqu'un qui est assez charismatique, qui est un jeune qui a beaucoup de. Qui parle plutôt bien, qui est plutôt un peu un grand frère, un leader dans le groupe, un peu un porte-voix du collectif, mais qui aussi a ses contradictions et est vraiment pris dans cet exil où il a encore beaucoup d'attaches en Guinée, son pays natal, et à la fois il est en train de construire beaucoup de choses en France, donc il est un peu tiraillé entre ces deux pays. Fanny, c'est une jeune femme absolument époustouflante qui a une lucidité, une intelligence, un humour sur les choses du monde et les choses de la société qui, je crois, saisit toutes les personnes qui voient le film. Elle a vraiment quelque chose, voilà, qui est précieux, qui est très beau sur son une malice qui est assez incroyable. Et Bontini, c'est un jeune qui est extrêmement courageux, mais qui a vécu des choses vraiment très difficiles et qui a surtout eu celui qui a eu le parcours le plus difficile en France, où vraiment s'est acharné sur lui, enfin l'administration s'est vraiment acharnée sur son parcours, et qui du coup porte aussi cette souffrance et porte ces traumatismes en cours qui sont faits par la société qui l'accueille. C'est vraiment un jeune qui a été mal accueilli et qui porte en lui la souffrance de ce non-accueil.
Donc ces trois jeunes ont accepté que vous les filmiez. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Se passe d'abord 6 mois où je suis là sans caméra à essayer de comprendre ce qui se joue. Et après, le tournage en lui-même, ça doit être à peu près 2 ans et demi, 3 ans, je pense. Donc c'est long. Ça prend du temps. C'est aussi le temps qu'il nous faut pour chacun s'apprivoiser, pour dépasser nos préjugés, dépasser moi, ce que j'imagine peut être le quotidien d'un mineur isolé, eux dépasser ce qu'ils ont envie de montrer d'abord à la caméra et être en représentation devant la caméra et accepter qu'on construit un film un peu plus subtil que leurs premières envies. Et du coup, bah voilà, on tourne pendant tout ce temps, bon, évidemment pas tous les jours, mais c'est quand même des jeunes qui m'ont accordé beaucoup de temps, qui m'ont accordé beaucoup de choses, enfin, qui ont été très généreux finalement dans leur. Dans ce film, dans tout ce qu'ils ont offert. Après, la grande question de quand on suit des parcours comme ça, qui sont des parcours où le rapport avec l'administration est sans cesse remis en cause, c'est quand est-ce qu'on arrête de tourner finalement? C'est ça la grande question. Moi, l'idée, c'était vraiment de les suivre de leur arrivée sur le territoire ou du début de leur démarche jusqu'à leur le moment où potentiellement ils auraient des papiers ou leur situation administrative se dénoue. Or, sur ces situations-là, ça se dénoue jamais vraiment. Tout est toujours remis un peu sur le feu. Et je crois qu'on a arrêté de tourner au bout de 2 ans et demi, au moment où peut-être il y avait moins d'envie, tout simplement. Ça a été très fort pendant tout un temps, et à un moment, cette envie de faire le film ensemble, elle a commencé à s'amenuiser. Et c'est là où finalement on a arrêté de tourner et je suis passé au montage du film.
Donc vous avez dit un long tournage. Ça veut dire donc beaucoup de matière. Vous avez envie de raconter quoi?
Ce qui m'intéressait et ce que j'ai essayé de raconter, c'est comment ces jeunes essayent de s'accrocher et de construire quelque chose dans la société, dans le monde où ils sont. C'est-à-dire comment, malgré tout ce qui leur arrive et malgré toutes les difficultés, malgré tous les problèmes administratifs, ils sont en train de tricoter quelque chose pour s'accrocher au monde qui les entoure.
Qu'est-ce qui vous a marqué mais qui n'apparaît pas dans le film?
Du coup, à travers ce film, je me suis vraiment interrogé sur les différentes failles de notre société, que ça soit du point de vue de la justice, où on peut trouver que finalement chaque individu ne peut pas se défendre vraiment face aux accusations qui sont portées contre lui. L'école aussi, on s'aperçoit que tous les jeunes ne peuvent pas être scolarisés, qu'il y a un vrai problème au sein de l'école. L'aide sociale à l'enfance, où on voit que la protection de la jeunesse est quand même un peu malade aujourd'hui. Et voilà, on se dit que finalement, ces jeunes nous montrent toutes les limites de notre système et tous les points noirs où où les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner dans un État moderne, démocratique.
Aujourd'hui, après ces rencontres, le tournage et le documentaire, que pouvez-vous dire sur la situation des mineurs étrangers ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois qu'aujourd'hui, les choses se sont un peu empirées par rapport au moment où moi, je tourne. Parce que à l'époque où moi, je tourne, il commence à y avoir pas mal de jeunes qui sont sortis du dispositif d'aide sociale à l'enfance, notamment à travers les tests osseux. Pour autant, le réseau solidaire collectif citoyen arrive à accueillir ces jeunes et à les héberger quand ils voient que l'État est défaillant et joue ce rôle. Aujourd'hui, un peu plus d'un an après la fin du tournage, les mises à la rue sont tellement systématiques dans beaucoup de départements français que beaucoup de jeunes se retrouvent à la rue et les collectifs ne peuvent absolument pas jouer ce rôle d'hébergeur parce qu'ils sont tout simplement pas assez nombreux et pas assez organisés. Et puis bon, à la base, c'est pas non plus leur rôle à eux, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec énormément de mineurs isolés qui sont dans les rues des grandes villes ou des moins grandes d'ailleurs, qui sont vraiment exposés à tous les dangers que représente la rue, quoi.
Que sont devenus Yacouba, Fanny et Dantini ?
On est en novembre 2018, le tournage et le montage du film s'est terminé en 2017, donc ça fait un peu plus d'un an que le film est terminé. Et finalement, leur situation n'a pas beaucoup évolué. Yacouba, pour lui, ça s'est plutôt bien passé. Il a pu avoir un titre de séjour et une autorisation de travail, ce qui fait qu'il a très rapidement trouvé un CDI dans sa branche qu'est la menuiserie. Fanny, elle a demandé son titre de séjour et aujourd'hui, elle n'a toujours pas de réponse. Donc après plus d'un an, elle n'a toujours pas de réponse à sa demande. Donc elle est dans une espèce de flou. Elle ne sait pas si elle peut vraiment rester ou non. Et Bantine, lui, ça a été très compliqué au niveau administratif. C'est toujours très compliqué, mais le seul point un peu positif, c'est qu'il a pu finalement avoir un CAP qui était une des grosses problématiques pour lui, l'accès à la formation, à l'éducation. Et donc ça, il a réussi il a eu son CAP avec mention, et donc ça, c'est plutôt très bien.
Antoine Dubeau, réalisateur de documentaires. Son dernier film, Exil adolescent, a été projeté à la MJC de Bourg-en-Bresse fin novembre. Thierry Clément, directeur général adjoint de la Solidarité au Conseil départemental de l'Ain, a assisté à cette projection. Il a annoncé que près de 260 mineurs étrangers sont pris en charge par le département. Et il a ajouté, je le cite, « Dans l'Ain, il n'y a pas de mineurs étrangers à la rue ni dans des hôtels. »
Radio B.
Après ce film, Antoine Dubeau a réalisé L'Attente, un web-documentaire sur les demandeurs d'asile. Il a été tourné dans un centre de transit à Lyon. Un film autour d'une question, qu'est-ce qu'on peut construire pendant l'examen de sa demande d'asile ? L'Attente, née grâce à un financement participatif, est en libre accès sur Internet. L'adresse pour le voir, attente-webdoc.com. Une date à retenir, le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Le collectif Solidarité Migrants de Bourg, plusieurs associations et syndicats se mobilisent. Ils seront présents le mardi 18 décembre à 18h, place de la mairie à Bourg, pour une marche au flambeau. Une marche en mémoire des personnes disparues sur les routes de la migration et pour réclamer, entre autres, la liberté de circulation. À vous, les Burgiens, sur Radio B, 90 FM.
La filière textile telle qu'elle est aujourd'hui conçue, elle marche à l'envers, elle nous conduit droit dans le mur, et c'est vraiment important qu'on change ça, non seulement pour nous, pour notre intérieur à nous, à l'échelon individuel, mais aussi pour nos relations avec les autres et nos relations avec le monde extérieur de manière générale.
Restez à l'écoute de Radio B, la suite c'est dans quelques minutes.
Pour chanter.
Canu, composé par Aristide Bruand et repris ici par Éric Lablanche. Le texte raconte la révolte des canuts, les ouvriers des manufactures de soie à Lyon en 1831. Ils réclamaient de meilleures conditions de vie. Ce chant ouvre et referme la conférence gesticulée de Marianne Godez. Le textile, ça tombe du ciel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est quoi une conférence gesticulée ?
Une conférence gesticulée, c'est un spectacle, une conférence où on va trouver du savoir froid, du savoir théorique, des choses que j'ai lues dans les livres, que j'ai apprises à l'école, des choses comme ça, mélangées à du vécu, à de l'expérience, les savoirs chauds. Et le mélange du chaud et du froid, quand une masse d'air chaud rencontre une masse d'air froid, ça donne de l'orage. Ça donne un savoir qui n'est pas forcément universitaire, mais qui est applicable tout de suite, là, maintenant, dans notre vie quotidienne, et auquel on peut tous avoir accès, parce que le vécu de la personne donne une accessibilité à la connaissance qui n'existe pas dans le savoir universitaire.
Il existe un réseau de conférenciers, conférencières, gesticulants, gesticulantes. Il y en a dans tous les domaines, l'agriculture, la démocratie, l'éducation ou encore la santé. Marianne Godez, costurière, un hybride entre couturière et costumière, a dédié la sienne à la filière textile. Sa motivation, faire prendre conscience de l'impact du textile dans notre quotidien. Elle ajoute, c'est quelque chose qu'on a à même la peau nuit et jour. À l'automne 2015, elle a commencé à rechercher des informations et au printemps 2016, c'était parti. J'ai retrouvé Marianne Godez à la MJC de Bourg où elle a présenté sa conférence gesticulée dans le cadre du Festival des Solidarités. Une conférence gesticulée, c'est un acte d'éducation populaire fondé sur l'envie de partager ce qu'on a compris, tel qu'on l'a compris, là où on l'a compris. Marianne Godez, qu'avez-vous compris ?
Oh là là, eh ben j'ai compris que la filière textile telle qu'elle est aujourd'hui conçue, elle marche à l'envers, elle nous conduit droit dans le mur, et c'est vraiment important qu'on change ça, non seulement pour nous, pour notre intérieur à nous, à l'échelon individuel, mais aussi pour nos relations avec les autres et nos relations avec le monde extérieur de manière générale.
Concrètement, comment vous avez compris que cette filière textile marche à l'envers ?
En tombant malade. Alors, je ne le raconte pas dans la conférence gesticulée, mais j'ai une hyperthyroïdie. Donc, mon système endocrinien est perturbé. Et du coup, je suis allée chercher pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Et petit à petit, j'ai compris. Alors, ce n'est pas seulement mon métier qui me rend malade, c'est aussi des tas de choses, l'environnement, les centrales nucléaires, voilà, tout ça. Mais je pense que mon métier a une incidence sur cette maladie. Et du coup, voilà, ça m'a secoué de l'intérieur.
Comment votre métier a pu avoir une incidence sur votre corps ?
En fait, bizarrement, j'avais l'impression que le métier de la couture, c'était un métier très propre. Mais en fait, si je creuse un peu, c'est pas si propre que ça. Quand je coupe un morceau de tissu, je crée de la poussière. Et cette poussière, je la respire. Je l'inhale. À l'intérieur de mon corps, elle vient s'installer, elle fait son petit bonhomme de chemin, et elle a un impact sur ma santé. Si j'utilise des tissus pourris, eh bien, j'inhale des particules pourries. Si j'utilise des tissus corrects, j'inhale des particules correctes, et les incidences ne sont pas du tout les mêmes.
Et donc, vous avez mis ça en parallèle avec des informations théoriques. Comment vous les avez sélectionnées?
Je crois que les informations sur la pourriture du textile d'aujourd'hui, elles traînent un petit peu partout. Elles sont faciles à trouver. J'ai eu aucune difficulté pour les collecter.
Il y a quoi comme information, par exemple?
Par exemple, que les teintures chimiques sont très nocives, contiennent du plomb, du mercure et des tas de cochonneries. Ça, c'est des choses qui sont relativement faciles à trouver. En fait, j'arrive pas à discerner de quelle manière j'ai mis les deux ensemble. Parce que quand on est plongé dedans, on a du mal de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Il faut pouvoir s'arrêter, prendre un peu de recul. Et je crois que le fait de se retrouver malade a fait que m'a obligé à m'arrêter et à prendre du recul pour questionner et chercher des réponses.
Ce que vous cherchez à faire, de sensibiliser les gens face à cette filière textile, est-ce que ce n'est pas un peu le pot de terre face au pot de fer?
Ah bah si, complètement. Dans les résultats que j'obtiens, j'ai l'impression de dépenser beaucoup d'énergie pour avoir un résultat que j'arrive pas à mesurer. Donc ça crée de la fragilité. Mais je ne crois pas que la force gagne à tous les coups. Des fois, la fragilité, ça emmène dans des lieux inconnus qui peuvent être extraordinaires à découvrir.
Qu'est-ce que vous aimeriez que fassent concrètement les gens qui viennent d'assister à votre conférence gesticulée? Qu'est-ce que chacun peut faire, des petites choses concrètes, déjà pour commencer à amorcer des alternatives?
Je m'imagine, je suis spectatrice de cette conférence gesticulée, je rentre chez moi, je vide mon placard et je fais le tri.
On ne peut pas forcément s'en débarrasser, quoi. C'est difficile.
C'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a un moment de transition quand on veut changer de modèle. Et je crois que vider son placard, analyser son placard, c'est un début de transition. Et j'ai pas envie qu'on mette tout ça à la poubelle et puis qu'on aille au magasin acheter des trucs. Quoi d'abord? En fait, il n'y a pas grand-chose comme proposition. Les vêtements bio dans la conf, je les dézingue aussi. Dans les propositions, dans les magasins courants, en fait, il n'y a rien. Il ne reste rien. Pendant la conférence gesticulée, je décortique tout et à la fin, il ne reste rien. On finit à poil. Donc, je sais bien que ça, c'est pas possible. En fait, moi, ce que j'aurais envie, ça me paraît très difficile. La première chose que j'aurais envie, c'est qu'on change la législation. La législation sur la culture du chanvre, qui interdit la culture du chanvre avec un taux de THC forcément inférieur à 0,2%, c'est un truc. Ça, faut le mettre à la poubelle. Donc, comment on fait pour s'organiser collectivement, pour demander un changement de législation?
Parce que le chanvre, donc ça, c'est une plante qui demande moins d'eau, par exemple, que le coton.
Moins de tout.
Moins de tout, oui. Et le THC, en quelques mots?
Alors le THC, c'est le tétrahydrocannabinol, c'est la fameuse molécule qui fait planer les fumeurs de joint. Et c'est cette molécule qui a été incriminée pour pouvoir interdire la culture du chanvre, qui... jusqu'au début du XXe siècle, était une culture traditionnelle courante, non seulement en France, mais dans tous les pays d'Europe, en Amérique, en Asie, un peu partout dans le monde. Le chanvre a été utilisé pas seulement pour faire du vêtement, pour l'alimentation, pour faire du papier, pour faire de la construction, pour faire des tas de choses. En fait, c'est une plante qui a été considérée aux États-Unis par les pères fondateurs des États-Unis comme un facteur d'indépendance économique. Donc, nous interdire la culture du chanvre, c'est nous interdire l'indépendance économique.
Et là, donc, ce serait une décision politique Mais après, quel rôle peuvent jouer les citoyens ?
Eh bien, moi, je ne sais pas comment on organise la demande de changement de législation. Ça, c'est un truc que je ne sais pas faire, moi. Donc, j'espère que, entre autres, j'espère qu'un jour, parmi les spectateurs, il y a quelqu'un qui va me dire « Ah, mais moi, je sais le faire, ça. Viens, on fait comme ça, je te montre, on le fait ensemble. » Voilà.
Vous avez envie que ça impulse quelque chose ?
Oui, oui.
Que ça fasse, que l'idée fasse un jour son chemin. C'est ça, votre objectif ?
Ah, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. J'avoue qu'au tout début, j'étais partie avec l'idée « on va pas tenir compte de la législation et puis on va se débrouiller pour s'organiser. » Je ne sais pas trop comment. Des fois, j'ai un peu des rêves farfelus. Je vois bien que ce rêve-là, je ne vais pas réussir à le réaliser. Il va falloir que je passe par un autre endroit. Déjà, parce que je ne me rappelle plus des chiffres, mais si on se fait pincer à cultiver du chanvre, ça peut coûter très cher. Donc, je l'ai rangé, le projet de cultiver quand même, malgré la législation. Je pense qu'il faut changer la législation. J'irai plus loin. Je pense que si on se contente de changer individuellement nos pratiques, ça ne suffira pas. Et qu'il faut aussi, les deux marchent ensemble, il faut aussi des changements structurels. Et un changement de législation, ça fait partie des changements structurels dont nos sociétés ont besoin.
Marianne Godès, conférencière gesticulante, a présenté sa conférence Gesticulée. Le textile, ça tombe du ciel, fin novembre à la MJC de Bourg. La couturière et costumière le constate, il n'y a pas ou peu de propositions pour des alternatives au textile comme il existe aujourd'hui. De son côté, elle a des tonnes d'idées. Elle a lancé un garage à fringues pour apprendre à réparer ses vêtements. Il y a aussi Ramène ta fringue, un vide-placard gratuit où on peut donner et se servir. Ça se passe et elle y tient dans l'espace public. Un dernier exemple qui n'a pas encore vu le jour, une vétothèque. Alors ça sonne comme bibliothèque, ça serait le même principe. Comme on le fait pour les livres, on pourrait emprunter des vêtements. Sur le même principe, il existe déjà sur Internet quelques boutiques, mais c'est principalement pour louer des vêtements de créateurs ou de marques. À Bourg, le Festival des Solidarités n'est pas tout à fait terminé. La mairie de Bourg-en-Bresse est partenaire cette année pour la première fois de cet événement. Elle organise ce jeudi 6 décembre une table ronde autour d'une question. Les communes, actrices de la solidarité internationale. Parmi les intervenants, l'adjointe aux travaux à la solidarité et à l'environnement de la ville de Bourg, l'ancien adjoint au développement durable à la mairie de Vona ou encore le président de l'association Au Soleil Rhône-Alpes. C'est à 19h au centre de formation l'ADEA, au 12 rue du Peloux à Bourg. L'entrée est gratuite.
Radio B.
Radio B.
Quelques infos en bref. C'est en ce moment la semaine de la laïcité. Le comité 1905 de l'Ain propose plusieurs rendez-vous. Le mercredi 12 décembre, lecture-spectacle du dernier texte de Charb, lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Charb, dessinateur de Charlie Hebdo, assassiné le 7 janvier 2015. Ça se passe au Vox, à 20h, rue Paul Pioda à Bourg. L'entrée est libre. Un débat avec Marika Bray, DRH à Charlie Hebdo, sera organisé juste après la lecture-spectacle. La participation est libre. Toutes les infos via la page 01-comité1905.org. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Retrouvez À vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h. Et à tout moment sur notre site radio-b.fr.